Cours Charles, le bonheur est dans la rue, de Sébastien Gendron, dans la collection Presto, aux éditions Magnard Jeunesse. Chapitre 1. On achète ton bonheur, vole-le. Bon, ok, d'accord, c'est vrai, j'ai volé une pomme, et je reconnais qu'en soi, c'est pas terrible. Une pomme, je veux dire. Non mais c'est vrai, une pomme, c'est pas non plus du caviar, on est d'accord. C'est plein de flotte et de sucre, ça pousse dans les arbres et quand c'est mûr, ça tombe tout seul. Il n'y a qu'à se baisser. Attention, je ne dis pas que c'est nul une pomme. Je sais bien que c'est en prenant une sur le coin de la tête qu'Isaac Newton a tout compris à l'histoire de la gravitation universelle. Je sais bien aussi que c'est pour une histoire de pomme que la guerre de Troie a éclaté. Et je sais aussi qu'il y a encore une histoire de pomme dans la Bible. Bon, sauf que là, si tu marches dans la combine, non seulement t'arrêtes les pommes, mais en plus tu tronçonnes tous les pommiers. Enfin bref, je parle pas de ces pommes-là, mais de celle qui fait que je cours, en ce moment même comme un dératé, dans la rue Daguerre, Paris, 14e arrondissement. Et pourquoi je cours comme un dératé? Mais parce que j'ai un type à mes trousses, tiens, et que si je ralentis, il va me rattraper et ça va très mal finir. Tout ça parce que j'ai volé une pauvre golden à même pas 2 centimes. Chapitre 2. Si besoin était de recourir à la force, ne restez pas au milieu. C'est la faute à qui si j'ai volé cette pomme, alors que en temps normal, je suis un garçon plutôt honnête. Oui, je sais, comme dit ma mère, c'est mal de chercher des responsables pour se défausser quand on a fait une bêtise. N'empêche. Qui m'a emmené samedi dernier voir les 400 coups au cinéma MacMahon pour me faire mon éducation culturelle? Un film qui, soit dit en passant, raconte l'histoire d'un gosse de mon âge qui fait quand même un nombre invraisemblable de conneries en seulement 1h30 et ne se prive pas de voler tout un tas de trucs. Alors qui? Tonton Jérôme, mon parrain, qui est aussi accessoirement le frère de maman. Et qui n'a pas empêché mon parrain de me traîner voir les 400 coups au MacMahon samedi dernier, alors que moi j'aurais préféré la planète des singes? Bah maman, pardi. Résultat, quand je suis sorti du collège tout à l'heure, j'avais faim. Et quand j'ai faim, je boufferai une vache. Bon, à la place d'une vache, j'ai trouvé une pomme. Enfin, je dis une pomme, mais il y en avait tout un tas. Là, sur l'étal du marchand de la rue Daguerre. Moi, j'ai pensé à quoi en les voyant toutes ces pommes? Bah, Antoine Douanel, le héros des 400 coups. Et je me suis dit qu'une de plus, une de moins, ça se verrait pas des masses. Donc je suis passé une première fois pour repérer les lieux et les vendeurs en faction. Une deuxième fois pour jauger des possibilités et mettre une stratégie en place. Et une troisième fois pour choper, ni vu ni connu, la pomme qui était tout en bas de la pyramide. Ni vu ni connu, tu parles. À peine je l'avais attrapée que toute la pyramide s'est cassée la gueule. Du coup, le vendeur, qui s'occupait des fruits, a entendu le bruit, a tourné la tête alors que je m'enfuyais, a donné l'alerte en hurlant, s'est fait engueuler par son patron qui lui a crié « Mais pauvre andouille, cours-y après au lieu de beugler comme un veau en restant les mains dans les poches !» Et aussitôt, le vendeur s'est lancé à ma poursuite. Du coup, depuis une bonne minute, je remonte la rue Daguerre en courant comme un branque, une pomme à la main et un type qui brame « Au voleur !» sur mes talons. J'aurais piqué la Joconde, ça aurait pas été pire. Devant moi, les gens s'écartent comme si j'étais un rat, mais je m'attends à ce que d'une seconde à l'autre, il y en ait un qui décide de jouer les héros et me bloque le passage. Bref, ça risque d'être chaud pour moi. Chapitre 3. Explorons le hasard. Ne surtout pas prendre la direction de la rue Victor Considérant. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit tandis que je cours comme un lapin. Pourquoi? Parce que c'est là que j'habite avec mes parents. J'imagine la tronche du voisinage si on me voyait grimper l'escalier avec l'autre possédé hurlant derrière moi. La rue Victor Considérant, c'est peut-être pas Passy, mais il y a quand même du beau monde. La voisine d'en face, par exemple, c'est Madame Figus. Et Madame Figus, Jacqueline, elle s'appelle. Elle est danseuse, actrice et professeure de claquettes sur pointe à Pleyel. Claquettes sur pointe, vous imaginez le truc? Vous prenez des claquettes normales, c'est déjà toute une affaire les claquettes. Et les pointes en danse classique, le truc le plus dur il paraît. Vous mettez des bouts de fer à vos chaussons et roule ma poule. Je trouve ça dingue. Mais Madame Figus, elle en a fait sa vie, et celle de sa fille aussi, Sophie. Une famille d'artistes quoi. Et juste au rez-de-chaussée de notre immeuble, il y a le papa de Jean-Paul Belmondo. Quand même le plus classe de tous les comédiens de la planète, qui y habite. Faut savoir que le papa de Bébel, comme on l'appelle, Il se contente pas d'avoir fait naître le plus classe de tous les comédiens de la planète et de dormir sur ses deux oreilles. Que dalle ! Il est sculpteur. Et pas n'importe quel sculpteur, en plus. Le genre qui est exposé dans les musées. Alors parfois, il y a Jean-Paul qui passe lui faire la bise. Bon, sauf que moi, je l'ai encore jamais croisé. Ma mère, par contre, oui. Deux fois. Ça l'a mise dans tous ses états, au point que mon père était super agacé et qu'il a menacé de sévir si ce cirque continuait. Mais sévir comment, au juste ? Mettre un mot dans la cage d'escalier ? Comme il fait à chaque fois qu'il y a un machin qui le dérange dans l'immeuble ? Un truc du genre « Monsieur Jean-Paul Belmondo serait bien aimable d'entrer plus discrètement dans le bâtiment afin de ne pas détourner l'esprit des honnêtes mères de famille ?» Faut quand même dire un truc, mon père, c'est pas Avatar. Il est expert comptable. Je sais pas s'il faut ce type de physique pour devenir expert comptable, mais le peu de ses collègues que j'ai rencontrés m'ont laissé à penser que le port de la moustache fine en bord de lèvres, du costume gris, de l'imperméable mastic et du chapeau semblait tout indiqué. La vache, ce qu'il est austère, mon père. C'est aussi pour ça que je tiens pas à filer me planquer rue Victor Considérant. Pas tant pour éviter les Figus et les Belmondo d'ailleurs que pour mon père. Du fait qu'il est expert comptable, il est certainement payé pour traquer tous les petits défauts de la société pour laquelle il bosse. Donc il a placé l'honnêteté très 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 haut dans son échelle de valeur. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la triche, pour lui, c'est pas possible. Je vous laisse imaginer ce qu'un homme pareil doit penser du vol, même du vol d'une pomme. Aussi, je préfère pas me pointer chez moi parce que je suis à peu près sûr que mon père serait fichu de ne pas m'ouvrir la porte. Je pense même qu'il prendrait un malin plaisir à observer par le Judas le vendeur en train de m'étriller sur le palier. Voire, il l'encouragerait en disant « Allez-y, frappez plus fort, il a toujours pas compris !» J'aurais jamais les arguments pour me justifier. Fin ou pas, une pomme ou un bœuf, pour lui, ça sera la même correction. Bilan, quand je quitte enfin la rue Daguerre et que je débarque sur l'avenue du maréchal Leclerc, je me dis que je vais contourner la place d'Enfer-Rochereau par la droite du Lion de Belfort et m'enfuir par le boulevard Arago. Logique. Sauf que voilà. J'aperçois Jean-Marie Duclos, mon cœur fait un bond et je manque de me faire renverser par une Juve à 4. Et Jean-Marie Duclos me voit lui aussi et il se retourne vers ses copains pour les avertir. Et les copains de Jean-Marie Duclos, je comprends pas bien comment ça se fait, mais ils sont un bon millier, là, massés au beau milieu de la place d'Enfer-Rochereau, à hurler comme des putois autour du lion. Qui c'est Jean-Marie Duclos ? Le grand frère d'Éric Duclos, qui est en quatrième au collège avec moi. Éric est un con, son frère c'est pire. Éric m'a craché dessus une fois de trop le mois dernier, et je lui ai mis mon poing dans la figure aussi sec, un réflexe. Pendant 3 jours, j'ai été le caïd de la cour du collège, et dans le même temps, j'ai appris que Jean-Marie Duclos me cherchait pour me rayer de la carte. Ma chance, jusque-là, c'est que Jean-Marie est dans un lycée à l'autre bout du 14e arrondissement. Sauf qu'à l'instant présent, il est là, avec tous ses potes, et ils m'ont vu. Hé ! Au voleur ! Heureusement que j'entends beugler mon poursuivant, sans quoi je serais resté bloqué sur place, à plus savoir quoi faire. Je traverse le boulevard en slalomant comme un fou entre les bagnoles et trouve refuge derrière une colonne de véhicules qui me dissimule aux yeux des lycéens. Quand je redresse la tête, je me rends compte de 3 choses qui ont chacune leur importance. D'un, pour le moment, le vendeur est bloqué par la circulation qui commence à bouchonner à cause de tous les copains de Duclos massés sur la place. De deux, Duclos m'a perdu de vue, ses potes aussi. De trois, j'entends quelque chose frapper 3 coups contre la vitre du véhicule derrière lequel je me suis caché. Quand je tourne la tête pour voir de quoi il s'agit, je tombe nez à nez avec un flic. Je recule et je considère le tableau. Avec ma pomme volée à la main et l'autre abrutie à mes trousses, j'ai rien trouvé de mieux que de me planquer derrière une colonne de cars de police. J'ai à peine le temps de réaliser ça que soudain, toutes les portières s'ouvrent en même temps et qu'une bonne 50aine d'agents de la force publique descend des véhicules. Au même moment là-bas, le vendeur réussit à passer entre les voitures et se met à gueuler « Police ! Police ! Arrêtez-le !» Je croise le regard d'un flic et je ne m'attarde pas. Volte-face, je m'arrache. Et hop, me voilà sur le boulevard Arago. J'ai encore moins de souffle que tout à l'heure, mais je fonce. Oh bon sang, oui, je fonce. J'ai volé une pomme il y a moins de 3 minutes et j'ai déjà 2000 personnes à mes trousses. Non mais c'est vraiment n'importe quoi ce pays. Et moi, c'est pas mieux. Il ne me viendrait même pas à l'esprit de larguer cette foutue pomme par-dessus mon épaule. Pourtant, ça serait la chose à faire, non ? Seulement voilà. J'y songe même pas, la pomme elle est là, dans ma main, et je cours comme un dératé, direction droit devant. Et qu'est-ce qu'il y a droit devant ? Je vous le donne en 1000. la prison de la santé.
Chapitre 4. Pourvu qu'il nous laisse le temps. La prison de la santé, mon père, il m'y a amené très jeune. Un jour, il m'a dit comme ça, « Tiens, Charles, tu vas venir avec moi, il faut que je te montre quelque chose de très important. » C'était un dimanche, on a commencé à descendre le boulevard Arago, et j'ai cru bêtement qu'il m'emmenait aux eaux du Jardin des Plantes, vu que je venais d'avoir 8 ans et que ça aurait pu me faire plaisir comme cadeau d'anniversaire. Parle. On n'a même pas parcouru 500 mètres que mon père s'est arrêté, il m'a dit comme ça. « Tu vois ça, Charles ?» J'ai levé le nez et j'ai vu. Des murs hauts en pierre, une énorme porte blindée, un drapeau français flottant au-dessus. J'ai regardé mon père qui me désignait la porte du bâtiment avec son index. C'est une prison, et pas n'importe quelle prison. C'est la prison de la santé, la pire de tout le territoire français. Tu sais pourquoi ils sont hauts comme ça, ces murs ?
Non, papa.
Parce que les hommes qui sont enfermés là-dedans, il vaut mieux pas qu'ils sortent. Jamais. Sans quoi ce serait la chienlit dans tout Paris. La chienlit, Charles. Je t'ai emmené ici pour que tu comprennes que si un jour tu avais dans l'idée de faire des bêtises, j'hésiterais pas une seconde à te faire enfermer avec ces bêtes jusqu'à la fin de tes jours. Et tu pourras toujours pleurer et dire que tu regrettes. Derrière ces murs, personne ne t'entendra crier. Ni tes remords, ni tes excuses. Tu m'as bien compris, Charles.
Oui, papa.
Allez, on rentre. Voilà pour la visite aux eaux. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des cauchemars à répétition dans lesquels je me retrouvais enfermé dans la cage aux singes du Jardin des Plantes. Eh bien, m'y revoilà à la prison de la santé. Et le plus effrayant, c'est que j'ai même pas eu besoin de mon père cette fois. Je m'y suis conduit tout seul. Comme si dans ma tête, j'avais un avocat et un juge et que c'était le juge qui avait gagné. Verdict, prison ! Et c'est là que je les vois. Les prisonniers. Des milliers de prisonniers. Dehors. Comme si une main géante avait déversé tout le contenu de la prison sur le boulevard Arago. Des criminels et des voleurs qui gueulent à qui mieux mieux le poing en l'air. Les mots de mon père me reviennent en mémoire comme un coup de fouet. Il vaut mieux pas qu'ils sortent, sans quoi ce serait la chienlit dans tout Paris. Hé, toi là-bas, petit salopard, viens ici tout de suite! Le vendeur de fruits et légumes est arrêté à l'entrée du boulevard. Il a l'air à bout de souffle, plié en deux, mais pas prêt de lâcher l'affaire. Et derrière lui, qu'est-ce que je vois? La bande à Duclos et les flics qui commencent à quitter d'enfer pour s'enquiller eux aussi sur le boulevard Arago. Me voilà pris en étau entre la chienlit, les sauvages et ce type qui ne va pas mettre longtemps à me récupérer. Je me retourne vers les tôlards et la situation s'aggrave en un instant. L'un d'entre eux tend un doigt dans ma direction. Il crie quelque chose que je ne comprends pas et soudain, son bras se lève et s'abaisse et les voilà qui se mettent en mouvement. Ça me paraît un peu gros, mais il n'y a aucun doute. C'est vers moi que tous ces dingues convergent. Oh merde. Regard à droite. Le vendeur s'est remis en route dans ma direction au petit trot. Derrière lui, les lycéens accourent. Regard à gauche. Les bandits accélèrent le pas en rugissant comme des bêtes. Regard au centre. Deux issues possibles. La première, le jardin de l'observatoire. Autant dire une nasse. Si je rentre là-dedans, ils auront vite fait de bloquer les portails et je m'en sortirai pas. La seconde, la rue du Faubourg Saint-Jacques, qui s'échappe entre les 5e et 6e arrondissements jusqu'à la Seine. D'ici là, j'aurai trouvé ce qu'il faut de petites rues pour les semer, c'est sûr. Au moment où je m'élance, j'entends « Oh putain, si je t'attrape, toi !» C'est le maraîcher. Pauvre type, il va pas tenir la distance, je me dis en traversant le boulevard comme une balle. J'ai beau me rassurer comme je peux, ils sont si nombreux, si en colère après moi et si déterminés qu'il y en aura toujours au moins un pour me retrouver. Où que j'aille. Un instant donc, alors que je fais de mon mieux pour accélérer la cadence, je me dis que ma fuite est vouée à l'échec. Je ne fais que gagner quelques précieuses minutes de vie, mais ça vaut la peine. Alors je concentre mes efforts pour que mes jambes ne me lâchent pas, ni mes poumons, ni mes yeux, qui cherchent la moindre issue possible. Parfois, malencontreusement, mon épaule rencontre celle d'un piéton que j'ai aperçu trop tard. Dans mon dos, j'entends un cri, une insulte, un sale petit voyou ! Voyou, moi ? Ça a toujours été la terreur de ma mère qu'un jour ou l'autre, je fasse quelque chose qui m'arracherait à elle. Un soir même, j'ai fini par lui demander « Pourquoi tu me dis toujours que t'as peur que je tourne mal ? On dirait que ça te rend toute triste. Je veux dire, tu crois vraiment que je vais tourner mal, c'est ça ? Parce que moi, j'ai pas envie. Déjà que papa m'a amené voir la prison de la santé, et c'est bon, j'ai bien compris. » Ce soir-là, ma mère m'a regardé et j'ai vu qu'elle faisait un max d'efforts pour pas que les larmes arrivent jusqu'à ses yeux. Bon, sauf que c'était peine perdue, vu qu'il y en avait déjà une qui s'était fait la malle et qui glissait le long de sa joue.
Elle a essuyé d'un geste rapide, elle m'a souri et elle m'a dit « Tu sais Charles, j'ai eu deux frères. Il y a tonton Jérôme, ton parrain. Et puis il y a eu tonton Clément. Tonton Clément, il est né juste après moi et c'était mon seul copain à cette époque. On jouait tout le temps ensemble. Puis un jour... le fameux tonton Clément, il s'est mis à faire plein de conneries et les gendarmes ont fini par l'attraper. Sauf que lui, c'était pas pour une histoire de pomme. Là où il a eu de la chance, tonton, c'est que pile poil au moment où il a été arrêté, il y a une guerre qui a commencé de l'autre côté de la Méditerranée. Alors le juge lui a fait une proposition. C'était soit la prison, soit la guerre au soleil. Tonton Clément a choisi la guerre au soleil. Bon, le soleil, il n'a pas vraiment eu le temps d'en profiter. On l'a jeté d'un avion en pleine nuit, au-dessus d'un pays qu'il avait juste vu sur une carte. Tout ce qu'on lui avait dit avant le décollage, c'était que l'Algérie, elle appartenait aux Français. Malgré ce que disaient les gens qui étaient nés là-bas, bien avant que les Français n'arrivent. Tonton Clément s'est démerdé pour atterrir avec son parachute sans se péter les guibolles, et une fois posé au milieu des montagnes, il s'est ramassé une volée de plomb qu'il a littéralement coupée en deux. Trois jours après, il revenait de là où il était parti, sauf que cette fois c'était dans une boîte en bois. Moi je venais d'avoir 3 ans, autant dire que mon tonton Clément, j'en ai pas gardé un grand souvenir. Par contre, la peur de ma mère de me voir faire des bêtises au point de n'avoir d'autre choix que de partir à la guerre ou finir à la prison de la santé, je l'ai bien comprise. Enfin, théoriquement. Parce qu'ils sont bien marrants, les adultes. N'empêche qu'il y a plein de trucs auxquels vous pensiez même pas avant qu'ils vous les mettent dans la tête. Alors paf, vous tombez dedans, sans même en avoir eu vraiment envie. C'est dingue, non? Eh ben j'estime aujourd'hui, alors que je cours comme un dératé sur les trottoirs de la rue du Faubourg Saint-Jacques, avec plusieurs milliers de personnes à mes trousses, que c'est aussi la faute de mon père et de ma mère si j'ai volé cette pomme. Voilà. À force de me menacer des pires avanies, si jamais je franchissais la frontière de la loi, il a bien fallu que je tente cette excitante expérience. Certes, là, maintenant, tout de suite, je le regrette. Mais on ne m'ôtera pas de l'idée que sans leur insistance, je n'aurais même pas songé à être malhonnête. Chapitre 5. Que c'est triste d'aimer le fric. Je galope. Et j'ai plus un centilitre d'air qui entre dans mes poumons. Il va falloir que je m'arrête, sans quoi je vais crever. Je tourne la tête et derrière moi, je vois personne. Même pas mon principal poursuivant. Mais le quartier bruit des cris lointains de la foule et des coups de sifflet de la police. Il y a bien quelques cours ouvertes aux quatre vents dans lesquelles je pourrais m'engouffrer, mais après. J'ai évité le jardin de l'observatoire, c'est pas pour me faire piéger tout seul dans ces cul-de-sac. En plus, vu ce qui s'est passé dans ce pays pendant la dernière guerre... Je parierai pas sur les habitants des immeubles autour pour me venir en aide. Je laisse défiler des portes cochères et arrivé au croisement suivant, j'aperçois une brasserie, comme on en fait un peu partout dans ce coin. Le genre avec terrasse, marquise et tout le tremblement, qu'il faudrait bien un trimestre de salaire à mon père pour s'offrir un menu du jour. Mais est-ce que j'ai le choix? Après tout, j'ai déjà volé une pomme, je peux bien me commander un café et m'enfuir ensuite. Au point où j'en suis, un poursuivant de puce ou de moi, hein. J'entre sur la terrasse en dérapant, je me rétablis à la dernière seconde et je calme mon ardeur pour passer sous l'œil sévère du garçon de café qui joue les plantons à l'entrée de l'établissement. Tu parles. À peine esquivé, je l'entends qui grince. « Et oui, crois aller comme ça, le jeune homme !» Sans me démonter, je lui réponds alors. « Qu'est-ce qu'un jeune homme vient faire dans un café, d'après vous ?» Sans quitter son petit ton sarcastique, il me répond. « À part chercher à consommer des boissons interdites pour son âge, je vois pas bien. » Du coup, je lui lance. Un café, ça fait partie des trucs auxquels j'ai droit, non? Un café donc, pour le jeune homme. Voilà, c'est ça. Je peux entrer maintenant? Il est sapé comme un pingouin, avec son tablier noir et sa chemise blanche, dont le col est tout de même vachement usé pour le prestige de l'endroit. Il doit pas être vieux, et pourtant on dirait qu'il a déjà 40 ans. Les cheveux lui sont tombés par poignées, si bien qu'il en reste une pauvre couronne qu'il aurait dû tondre il y a longtemps. Et ce plateau, qu'il tient en appui précaire sur le bout de ses doigts, comme si à tout instant le général de Gaulle en personne allait débarquer pour faire la revue. C'est en voyant des types dans son genre que je comprends de quoi parle tonton Jérôme quand il dit « Lui, c'est un loufia du capitalisme. » Le genre de mec qui pète plus haut que son cul, sous prétexte qu'il bosse pour les riches. En attendant, le pingouin me répond « Désolé jeune homme, mais c'est l'heure du ménage et tu vas tout me saloper. » D'un geste du bras, il me désigne la terrasse. Je prends donc place sans barguigner parce que ce serait quand même dommage de se faire virer d'une telle planque. Pendant qu'il est parti faire couler mon café, j'observe les environs, prêt à sauter sur mes deux pieds pour filer. Bien entendu, ça tarde pas. À peine ai-je eu le temps de souffler que déboulent mes premiers poursuivants. Aussitôt, je me tasse, la tête rentrée au maximum dans les épaules. La foule passe, sans même me jeter un regard.
Et quand le dernier a disparu et que je m'apprête à me lever pour partir, j'entends la voix du serveur qui dit « Depuis tout à l'heure, ça défile. Je sais pas bien après qui ils courent, tous ces couillons, mais vu comment ils sont remontés, quand ils l'auront attrapé, ça va chier. Un café pour le monsieur !» Et ce disant, il pose devant moi une petite tasse fumante avec trois fois rien dedans. « C'est tout ?»« Monsieur m'a demandé un café, ceci est un café. » »« Vous vous foutez de moi ?» « Il y aurait plus dans le dé à coudre de ma grand-mère. »« Vous avez là un expresso, jeune homme, et c'est la bonne dose. »« Dans ce cas, allez m'en chercher un autre, de vos expressos. » »« Si monsieur voulait bien se donner la peine de demander poliment, je me ferais un plaisir. » Tonton Jérôme a horreur qu'on lui parle comme ça. Il appelle ça un ton condescendant, et ça le met en rogne. Tonton Jérôme, c'est mon héros. Et des fois, je l'imite. Du coup, le garçon café, je décide que je vais me le payer à la Tonton Jérôme. Du tac au tac, je lui renvoie... Et pourquoi je serais poli avec un type qui est juste un loufia du capitalisme, hein? Vous pouvez me dire? Ça le sèche direct. Et je suis pas peu fier. Du coup, il est tellement sous le choc qu'il s'assoit à côté de moi et plonge ses yeux dans les miens. Des yeux tout bleus, tout délavés, très beaux, très doux. Et il me dit comme ça. Comment tu t'appelles?
Charles, pourquoi?
Et t'as quel âge, Charles?
13, pourquoi?
Tu sais ce que c'est un loufia, Charles, 13 ans?
Bon, évidemment que je sais ce que c'est. C'est un type comme vous, qui sert des clients pour un patron qui l'exploite et qui a à peine de quoi se payer le lavage de ses chemises.
Le type se passe une main sur le visage et semble réfléchir à ce que je viens de lui répondre. Enfin, il me demande « Et l'histoire de Monsieur Loufia, tu la connais, l'histoire de Monsieur Loufia ?»«
Ben non. T'es comme tout le monde, tu la connais pas. »
Et du coup, tu utilises ce mot sans même savoir de quoi tu parles. Alors je vais te la raconter, moi, l'histoire de M. Loufia.
Manquez plus que ça.
J'attrape la toute petite tasse de café et je dis « Ah, désolé, mais j'ai pas trop le temps, je dois rentrer. »
T'inquiète pas, ça sera très rapide. Reste en place 5 minutes et tu vas tout comprendre.
Il arque ses sourcils, je tente de résister 3 secondes, j'avale une gorgée de café pour me donner un peu de contenance. Puis je repose la tasse en grimaçant. 1, c'est brûlant. 2, c'est salement amer.
Bah, allez-y, je vous écoute.
Sans doute pour ménager ses effets, le garçon sort un paquet de gauloises et prend le temps de s'en allumer une. Puis, une fois qu'il a soufflé toute la fumée de sa première bouffée, il se lance. C'est l'histoire d'un garçon de café, tout comme moi, habillé pareil, et très attaché à son métier. Il veut bien faire, c'est son premier boulot. Il sert dans une grande brasserie du boulevard Saint-Michel. Bref, un gars bien, et son nom, c'est Monsieur Loufia. Ce Loufia, tous les midis, il voit débarquer le même client, un gros et vieux Richard, qui s'installe toujours à la même table et qui veut être servi que par lui, sous prétexte qu'il est nouveau dans l'établissement. Le garçon tire sur sa clope, j'en profite pour lui demander « Comment il s'appelle, le Richard ?»«
J'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire ?»«
Ah bah c'est toujours mieux de donner des noms à ces personnages. »«
Monsieur de Mongeau, ça te va ?»«
Ouais !» Et ça se passe quand, votre histoire?
C'est pas mon histoire, c'est celle de Monsieur Loufia, je t'ai dit.
D'accord, mais ça se passe quand?
Mais j'en sais rien, moi. Au début du siècle, je crois.
Bon, bref, tu veux savoir la suite ou tu vas continuer à m'emmerder avec des détails insignifiants?
Les détails, ça fait tout.
Mais allez-y, continuez.
J'en étais où?
Que Monsieur de Mongeau, il voulait être servi que par Monsieur Loufia.
Exactement, et tu sais pourquoi?
Non. Parce que ce monsieur de Mongeau était un sacré vicelard. Comme il savait que Loufia était tout nouveau, ça lui permettait de lui faire plein de reproches, de l'envoyer promener pour un oui, pour un non, de commander des plats et puis d'affirmer que c'était le serveur qui s'était trompé, de l'insulter devant tout le monde, de le mettre plus bas que terre, bref. De Mongeau se comportait comme un salopard avec le pauvre monsieur Loufia tout au long du repas. Et à la fin... Juste après avoir avalé son café, son digestif et avoir payé l'addition, tu sais ce qu'il faisait, ce monsieur de Mongeau?
Non.
Il laissait un gros pourboire à monsieur Loufia.
Un gros pourboire?
Ouais. De légende de serveur, on n'a jamais vu des billets aussi gros pour un seul service. Et le lendemain, monsieur de Mongeau revenait et recommençait son cirque. Insultes, maltraitance et pourboire conséquent.
Si je comprends bien, votre de Mongeau, il se payait un souffre-douleur.
C'est tout à fait ça. Moyennant quoi, M. Loufia a accepté d'être traité comme une merde. T'as tout compris.
C'est ça la morale de l'histoire? Y a pas de morale dans cette histoire, mon petit Charles. Juste une bonne vieille conclusion. Un jour, ce M. Loufia en a eu marre. Pas savoir pourquoi, peut-être qu'il avait mal dormi, j'en sais trop rien. Toujours est-il qu'à midi, M. de Mongeau s'est pointé et il a fait comme d'habitude. Insultes et mauvais traitements. Et M. Loufia a pas supporté. Il a sorti un petit revolver qu'il avait sur lui, il l'a posé sur la tête de M. de Mongeau et il a tiré. Bam ! Mort sur le cou le Richard, la cervelle sur le carreau. J'en reste comme deux ronflons. Du coup, le garçon de café écrase sa cigarette, se lève et poussette la cendre qui est tombée sur son tablier. Ensuite, il me dit « Moi, je m'appelle pas Loufia, mais Daniel. Daniel Bernard. L'histoire que je viens de te raconter, faut que tu la gardes dans un coin de ta tête. Parce que le respect, Charles, ça se monnaie pas. Et le café, c'est cadeau, ça me fait plaisir. » Je pourrais lui répondre que ça tombe bien, mais vu l'histoire qu'il vient de me raconter, j'évite de faire le malin. J'attrape ma tasse et je bois ce truc amer en m'empêchant de grimacer. C'est là qu'à l'autre bout de la terrasse, j'entends une voix qui s'écrie « Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Je me retourne, et qui j'aperçois entrant sur la terrasse ? Le seul type que je connaisse qui soit capable à 20 ans de porter une veste Prince de Galles avec des coudières en cuir et un pantalon en velours côtelé rouge. Alors c'est qui rentre sur cette terrasse à ce moment-là de l'histoire ? Ben, si tu veux le savoir, cours vite toi aussi, te procurer Cours Charles, le bonheur est dans la rue.